Bienvenue au podcast d'El Shaddai. Vous allez écouter une parole qui va vous édifier et qui vous permettra d'avancer afin d'être bien établi dans votre vie chrétienne. Excellente écoute.
Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être ici. C'est mon premier voyage au Luxembourg. Je peux rajouter ce pays sur la liste des pays visités. Le Seigneur, il est bon. Vous avez remarqué que nous, les Québécois, est-ce que vous connaissez un peu les Québécois? Non, pas beaucoup. Jamais personne ne sont venus au Québec. Ouais. On a un accent assez particulier. Ma femme, elle est française et je dis souvent qu'elle travaille à temps plein sur mon accent. Mais il y a toujours une histoire hein, derrière l'histoire. Et derrière tout cet accent, il y a le fait qu'on est un petit peuple de à peu près 7 millions de francophones. Et on est entouré de 350 millions d'anglophones. Donc, on est, ce que j'explique à nos amis français, qu'on est le village d'Astérix en Amérique. On lutte contre, non pas les Romains, mais les Anglo-Saxons. Je suis content d'être avec vous. Merci de cette invitation, pasteur Déborah. C'est une joie pour moi d'être ici, surtout d'enseigner sur ce sujet. Dans la présentation, elle mentionnait que j'ai 45 ans d'expérience. J'aimerais avoir juste 45 ans. Je priais le Seigneur tout à l'heure en disant, Seigneur, rachète le temps, j'ai tellement de boulot que je veux tellement développer. J'ai été pendant à peu près une quinzaine d'années, celui qui a mis en place et dirigé le département de soins pastoraux et relations d'aide de l'Église Nouvelle Vie, qui est au Québec, que vous connaissez probablement avec le pasteur Claude Houde. Je dis souvent, j'ai passé ma vie entière à aider les gens dans les situations les plus difficiles que la vie apporte. Donc, je sais que le Seigneur, il est là, il est fidèle. On n'a pas une divine immunité contre les soucis de la vie et les problèmes, mais on a l'assurance d'une chose, c'est que jamais il ne nous abandonne. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va passer tout ce week-end sous le thème de la relation d'aide. Et ce soir, je vais lancer un petit peu la question à partir d'un texte, c'est le récit d'une rencontre entre Jésus et un personnage très spécial dans l'Évangile de Luc, et qui nous donne un petit peu les grands enjeux rattachés à la vie et aux soucis de la vie. Vous avez remarqué sur la diapo, c'est marqué des besoins rencontrés, des problèmes résolus et une vie transformée. La grande question que j'ai eue au fil de tout mon ministère, toutes ces années de ministère, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que des gens changent et d'autres ne changent pas? Malgré le fait qu'ils sont exposés au message, qu'ils ont une conversion bien réelle, qu'est-ce qui fait qu'ils sont souvent coincés? Bien, c'est souvent parce que les problèmes ne sont pas résolus à la base. Et si vous voulez, on va jeter un coup d'œil. Tout va apparaître sur la diapo, sur les diapos. Ça va? Vous m'entendez bien? Ça marchait il y a deux petites minutes. Ça ne fonctionne plus. Ça marchait tout à l'heure, je ne sais pas. Je vais allumer, je vais éteindre pour voir. Vous savez, ça c'est le genre de problème que n'avait pas l'apôtre Paul. Quant à avoir des problèmes, je m'entends celui-là que les siens. Je ne vais pas finir lapider, fondre une jaune. C'est bon, impeccable, parfait. OK. Et voici qu'un docteur de la loi se leva. Il lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. » Voici ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir une rencontre, une requête, une réponse et un résultat. De cette rencontre avec Jésus s'inscrit énormément, vous allez voir tout au long du week-end, énormément de clés qui sont nécessaires pour bien répondre aux besoins des gens. Dans ces éléments-là d'une rencontre, j'aimerais vous encourager à comprendre que la notion de rencontre est quelque chose d'hyper important. Le texte mentionne, et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. Donc, ce que vous devez voir comme contexte dès le départ, c'est que c'est un docteur de la loi. Donc, si on avait à comprendre un petit peu dans un contexte beaucoup plus actuel, c'est un juriste, c'est un homme qui aurait un doctorat, serait peut-être responsable d'une faculté de droit. Évidemment, ce n'est pas le droit actuel, c'est le droit religieux de l'époque, la Torah et tout ça. Donc, c'est un spécialiste de la loi. C'est quelqu'un qui a fait son droit. Encore une fois, dans une appellation plus moderne, on dirait que c'est un avocat. Et cet homme-là, qui est un féru de la parole, qui connaît la parole pour sur le bout de ses doigts, s'approche de Jésus pour le mettre à l'épreuve. En fait, on va essayer de contextualiser un peu la situation. C'est pas vraiment, il ne veut pas tellement l'éprouver. Je ne veux pas lui donner des propos, des motifs trop négatifs, mais à quelque part, il veut croiser le fer avec Jésus, ou du moins, il veut se rassurer en regard de ce que Jésus pense de la question qu'il va lui poser. Donc, il s'approche de le mettre à l'épreuve. Mais ce que je veux, encore une fois, signifier, c'est qu'ici prend place une rencontre. Et toute rencontre met en perspective un certain nombre de questions, de buts poursuivis. Il y a quelque chose d'intentionnel dans cette rencontre-là. Il faudrait réfléchir un tout petit peu à... Quand on s'arrête à réfléchir à l'entièreté de notre vie, on s'aperçoit que notre vie est jalonnée de rencontres. Parfois, des rencontres hyper positives qui ont fait de nous... qui ont évidemment été un avantage dans notre vie. Et parfois, il y a des rencontres qui sont davantage négatives et qui ont impacté notre vie, évidemment, négativement. Et ce que j'aimerais vous encourager, dans les prochains jours, les prochaines semaines, recommencez à lire les Évangiles à la lumière des rencontres que Jésus a eues avec les gens. Au-delà du message, au-delà du contenu des messages qu'il transmet à la personne, dans cette rencontre-là, il y a une proximité qui est là, qui fait qu'on a accès à une information qu'on n'a pas nécessairement accès dans les grandes foules. Il y a quelque chose d'intime qui prend place. Ici, c'est un docteur de la loi et c'est Jésus. Il y a une rencontre où il va se passer quelque chose. Okay? Maintenant, Jésus a eu des rencontres avec plein de gens à l'époque. Il y a eu des rencontres, rappelez-vous, avec la femme samaritaine au puits. C'est un super de texte, une rencontre incroyable. Vous savez que lorsque Jésus s'est assis à ce puits pour discuter avec cette femme-là, il était en infraction. Sur trois tabous, trois règles fondamentales de la société de l'époque. Il ne pouvait pas parler à cette femme-là. Il ne devait pas parler à cette femme. Premièrement, c'était une femme. Les Juifs de l'époque ne parlaient qu'à leur femme, qu'à leur mère, qu'à leur sœur, qu'à leur fille, mais jamais une étrangère. Et en plus, il est en infraction sur le plan culturel ou social parce que c'est une femme samaritaine. La Bible mentionne dans les Évangiles que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. C'est une forme de racisme, une forme de ségrégation et de préjugé envers ce peuple-là. Et en plus, c'est une femme pécheresse. Cette femme, elle avait eu 5 maris et le gars avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Vous imaginez, et Jésus prend le temps de parler avec elle, de discuter avec elle. Je dis souvent à la blague quand je pense à ce texte-là, si cette dame avait rencontré certains chrétiens que je connais, elle aurait probablement fini dans le puits, OK? Mais la réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé avec Jésus, parce que Jésus, il est venu pour sauver, il est venu pour rétablir, il est venu pour restaurer tout cela. Et de cette rencontre avec cette femme-là, évidemment, elle va s'éveiller à la foi, et il va avoir, à la limite, on peut même prendre l'expression qu'il va y avoir un réveil dans le village, parce que tout le village va être impacté par ce qui est arrivé à cette femme. Pensons à la rencontre entre Jésus et la femme adultère. Cette femme était à l'article de la mort, pour être lapidée par des hommes qui l'accusaient d'adultère, comme si elle avait commis l'adultère toute seule. Okay? Donc, vous voyez encore une fois tout le côté qui est très actuel, parce que dans certains pays, c'est toujours ce qui se passe aussi. Et cette femme-là échappe à la mort parce que Jésus prend sa défense devant les gens, avec une maîtrise incroyable, malgré la pression qu'il y avait à l'époque. Pensons à Marthe et Marie, et Lazare, qui, je pourrais peut-être dire que c'est presque la famille adoptive de Jésus. Il y a une relation très, très intime. Jésus mange avec eux. Et bien sûr, on connaît la résurrection de Lazare aussi, qui est phénoménale, un des grands miracles du Seigneur. Il y a Zachée le publicain. Si vous vous relisez un tout petit peu l'histoire, cet homme, dans une simple interaction avec Jésus, sa vie a basculé du bon côté. Un homme méprisable, un homme méprisé, un homme qui volait des gens, qui les exploitait. Et dans cette rencontre avec Jésus, et vous savez, quand Jésus a dit à Zachée, « Je m'avais logé chez toi », la foule s'est mise à critiquer Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas l'amour et la miséricorde de Jésus. Jésus était venu pour les pécheurs. Et de cette rencontre avec Zachée, celui-ci a donné la moitié de ses biens aux pauvres, ce qui n'est pas peu. Et c'est tout ça est le résultat d'une rencontre. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et il y a bien sûr Bartimée l'aveugle, l'homme que l'on voulait faire taire, qu'on voulait faire taire parce qu'il criait trop fort et qui a eu accès à sa guérison. Il y a bien d'autres sujets, encore bien d'autres rencontres, bien d'autres personnes qui ont rencontré Jésus. Mais prenez un temps à chaque fois pour vous pencher un petit peu sur ces personnes, sur ce qu'ils vivent et tout cela. Mais ici, il y a quelque chose de différent parce que c'est une des rares fois où Jésus rencontre quelqu'un qui est dans la haute de la société. La haute société, c'est un, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est un juriste et tout ça. Ce n'est pas quelqu'un du peuple, c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a une immense connaissance et qui s'approche de Jésus et qui va lui poser une question. C'est la fameuse requête auquel je fais allusion dans le deuxième point. Une question. Ça y est. OK, c'est bon. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Regardez-moi. Est-ce que vous savez que les avocats, ce sont des personnages assez particuliers? Ce sont des gens qui ont absolument un très bon ego, beaucoup de confiance en eux, et ils se spécialisent dans quelque chose, ils se spécialisent dans des questions. Okay? Parce qu'ils visent toujours un but, eux, en posant des questions. Donc, ici, ils posent la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Donc, il cherche un petit peu, encore une fois, à confronter un peu ce qu'il sait en regard de ce que Jésus sait. Mais ce qu'on doit se poser comme question, c'est pourquoi a-t-il posé cette question-là? Parce qu'il y a mille et une questions qu'il aurait pu choisir. Alors, vous voyez que dans le mot « requête », il y a un autre mot inséré dans le mot « requête », c'est le mot « quête ». C'est-à-dire que lorsqu'on pose une question, lorsque quelqu'un pose une question, d'ailleurs, la racine du mot « question », c'est toujours « quête », lorsqu'on pose une question, c'est qu'on est à la recherche de quelque chose. Donc, dans la question que le docteur de la loi pose me donne de l'information sur lui. Au même titre que si je vous disais ce soir, que dois-je faire pour avoir de l'eau? Ça vous donne une information sur un besoin que j'ai. Probablement que le pasteur a soif, il a la bouche sèche ou quelque chose que ce soit, j'ai besoin de désaltérer. Donc, la question donne toujours de l'information sur ce qui se passe dans la vie de la personne. Or, il semblerait, on peut sûrement déduire, que dans toutes ses connaissances, il avait pu trouver une réponse satisfaisante à la question « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Maintenant, ça m'amène plein d'autres questions aussi. Ça amène la question suivante. Pourquoi pose-t-il cette question à Jésus? Pourquoi pose-t-il cette question? Je n'avais pas besoin d'eau. Hein, ça allait. Merci, frère. D'ailleurs, j'ai déjà une bouteille qui est ouverte, là. c'est une illustration, OK? Si je vous dirais, que dois-je faire pour avoir une Lamborghini ou une Ferrari? J'aurais dû. Revenons à la fameuse question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi pose-t-il cette question à Jésus? Pourquoi tente-t-il quand même de prendre Jésus au piège? Il veut le mettre à l'épreuve, l'éprouver. Que veut-il savoir au juste et que cherche-t-il? Là, j'ai besoin de votre aide ce soir. Vous devez m'aider. Ça va, vous êtes là? Amen. Lorsque le docteur de la loi pose la question à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il cherche? Ne répondez pas à la vie éternelle, là. Je vois bien que dans la question. Mais qu'est-ce qu'il cherche au juste? Quelqu'un peut me dire? Oui, allez-y, frère.
Il souhaite confronter Jésus sur sa connaissance de la loi.
Oui. OK. Autre suggestion? Oui, allez-y.
Il veut montrer qu'il connaît déjà quelque chose sur la vie éternelle.
N'oubliez pas, c'est un avocat. Un avocat ne pose jamais une question par hasard. Il poursuit toujours un but. OK? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que le gars cherche au juste?
Il veut être sauvé.
OK. Quelqu'un d'autre? Suggestion? Laissez aller votre imagination. Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que veut-il savoir? Que cherche-t-il? Oui.
C'est une quête intérieure.
De? C'est un avocat. Allez-y.
Il voulait connaître l'opinion de quelqu'un. C'est la vie de lui qui devient.
Oui. Au niveau de la motivation, je suis entièrement d'accord avec lui. Il va avoir le point de vue de Jésus sur la question. Mais là, s'il pose la question, qu'est-ce que lui-même cherche?
Du vide intérieur.
Cherche.
C'est une quête du vide qu'il ressent à l'intérieur de lui.
Déborah, c'est un avocat. Il allait poser la question directement à Jésus. Jésus, que dois-je faire pour régler mon problème, le problème de mon vide intérieur? Tu vois? Oui, madame.
Il veut peut-être la solution.
Pourquoi supérieur aux autres? C'est un avocat. Jésus, comment pourrais-je faire pour être supérieur aux autres? C'est un avocat, il se spécialise dans les questions.
Est-ce que ce n'est pas une manière de vérifier l'identité de Jésus?
Dans quel sens?
Ben, parce qu'en répondant à la question, peut-être que Jésus va révéler des choses sur lui-même.
Oui. Mais c'est un avocat. il pose une question précise. De quoi est-il question? On est un peu plus loin. Quel est le sens de sa question? De quoi est-il question dans cette question? Oui.
C'est la curiosité.
La curiosité, au niveau du motif potentiel. Mais il pose quand même une question dans laquelle il est à la recherche de quelque chose.
Il veut savoir s'il va être pardonné, c'est ça?
Pardonné? Pourquoi? Il pourrait poser la question. C'est un avocat. Que dois-je faire pour être pardonné, Jésus? Mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il cherche au juste? La dame a parlé du salut ici.
Est-ce qu'il n'est pas en quête d'humilité?
OK. Tout le monde, on se calme, on relaxe. OK? Vous êtes sur le motif, vous êtes sur la motivation. OK? Parce qu'il pose une question. Est-ce qu'il pose la question? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que le gars veut au juste? Je vous dégale avec vous. Hein? Qu'est-ce que le gars veut? Qu'est-ce qu'il veut?
Okay.
Là, vous êtes assez psychologue, philosophe. Là. Je ne suis pas sûr que je suis capable de me rendre jusque-là. OK. Oui, madame.
Je pense qu'il voulait montrer qu'il est juste.
Pourquoi?
Parce que quand on voit par la suite la réponse de Jésus, il a dit, fais-le.
Vous êtes déjà rendu trop loin, là. Je suis juste à la question, moi. Okay. L'art de compliquer les choses. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?
Comme dans la loi, comme il connaît déjà la loi, il a besoin de quelque chose en plus qui va lui donner la vie. Est-ce que la vie ne se trouve pas forcément dans la loi qu'il connaît déjà?
OK. Mais qu'est-ce qu'il cherche, le gars, là? Quand je sais que vous allez me répondre, il cherche à apprendre Jésus, il cherche à confronter. Mais restez sur la question.
La
vérité en regard de quoi?
La
vie éternelle? Ce qu'il doit faire pour. Quand il est question de la vie éternelle, il est question de quoi ici?
Le salut.
Bon. Est-ce qu'il y a une question de salut? Là? Est-ce qu'on s'entend sur quelque chose? On s'entend sur le salut, c'est ça? Que dois-je faire pour aller au ciel?
Peut-être qu'il veut prendre Jésus au piège aussi, parce qu'il a tellement de connaissances.
Oui, vous êtes encore sur la motivation, sur le motif qui l'anime. Okay? Moi, je suis sur la question. Je ne suis pas sur l'intention, je suis sur la question, le contenu de la question. Alors, c'est le salut?
Oui.
C'est le salut? Vous hésitez, là, vous n'avez pas l'air très convaincu. OK, salut. OK. On va. ça va. C'est super, super, super. Juste mettre mes diapos en bonne forme. Regardez bien. Il y a quelque chose qui doit se dénouer ici, parce que quand on entend le mot vie éternelle, on pense tout de suite à quelque chose. Okay. Ce qui est difficilement sorti ici ce soir, vous avez parlé un peu. Deux ont parlé de salut, mais d'autres ont douté, ils ne savent pas trop et tout ça. Cherche la connaissance? Pourquoi il ne dit pas à Jésus, que dois-je faire pour acquérir la connaissance? C'est un avocat. Bon, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que les avocats non seulement se spécialisent dans les questions, mais les avocats ne posent jamais une question dont ils ne savent d'avance la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils vont se piéger eux-mêmes. Pasteur Denis Morissette, où étiez-vous? Je ne me souviens pas quelle date on est aujourd'hui. Je suis un peu... À 20 heures, où étiez-vous? À 20 heures, le 12 avril, ben, j'étais avec une trentaine, quarantaine de personnes avec moi. Donc, l'avocat, il perd la face. Il ne peut pas perdre la face. Regardez bien la suite. Ah, Jésus lui dit... D'ailleurs, j'aimerais vous dire... que Jésus est un avocat. La Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Okay? À la question que pose le docteur de la loi, Jésus répond par deux questions. OK? Intéressant, n'est-ce pas? La première question, c'est « Qu'est-il écrit dans la loi? » Et la seconde question, c'est « Qui dis-tu? » Maintenant, ça paraît simple comme ça quand on regarde ça d'un premier regard, mais en fait, fondamentalement, c'est une des questions qui est très objective, qui voudrait dire « Qu'est-ce que le texte, qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Qu'est-ce que le texte dit? » Et là, il va donner la réponse. Et la deuxième question, elle est plus subjective. C'est « Ah, OK, docteur, qu'est-ce que toi t'as vu? Qu'est-ce que toi t'as... » c'est très subjectif, c'est très personnel. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Ouais. Il y a une différence entre être hyper objectif, d'y aller de façon un peu rationnelle, puis il y a une autre raison, c'est une autre façon de le voir de plus intime que de lancer la réponse comme ça de façon purement intellectuelle. Et la réponse, on la connaît, la réponse, et la réponse c'est tu aimeras le Seigneur j'avais répété la diapo, mais je vais y aller ici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. OK? Maintenant, si la question portait sur le salut, ou si je vous posais la question ce soir, que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que vous me répondriez? Crois au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé? Allez, s'il vous plaît, évangélisez-moi ce soir. Là. Je peux être sauvé, moi. Qu'est-ce que vous me répondriez? Crois au Jésus, c'est tout? Mourir, je meurs à moi-même? OK. Je confesse quoi? À mes péchés. Juste confesser. Accepter Jésus comme mon sauveur. OK. Là, je me pose la question si je suis sauvé là, avec ce que vous me dites. Là. J'ai tout ce qu'il faut là, pour être sauvé? Ou il y a autre chose? Bon, OK. Ça y est, je suis sauvé, là? C'est bon? OK? Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est fascinant. C'est hyper intéressant. Mais en fait, regardez, je vais faire un pas en arrière. Je vais retourner vers le texte, là. Oups. Regardez bien. Si la question « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle » porte sur le salut, la réponse ne concorde pas avec la question. Parce qu'aucun de vous m'avait dit, mais pasteur Denis, tu as juste à aimer Dieu de tout ton cœur, ta face, ta pensée, ton âme et ton prochain comme toi-même, vous ne m'avez pas dit ça. Donc, ça nous amène à la question, qu'est-ce que le gars cherche au juste? On revient toujours à la fameuse question. En fait, ce qu'il cherche, c'est la vie. Mais le problème qu'on a dans nos milieux à nous, c'est que quand on voit cette question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, on pense toujours à la vie après la vie. Mais c'est beaucoup plus que cela. Je ne dis pas que c'est peu le salut, la vie éternelle dans le sens éternité. C'est beaucoup, mais c'est pas tout. Okay? Quand on regarde dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y a quatre termes pour le mot vie. Le premier mot qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est bios, qui donne naissance, qui fait allusion bien sûr à la vie biologique. C'est la vie du corps, c'est le fait que je suis un être vivant, c'est la vie biologique. C'est aussi la vie dans sa durée. Lorsqu'on dit de quelqu'un, il a vécu 85 ans, ben, c'est la durée de sa vie, la durée de la vie de son corps. Mais évidemment, ici, ce que recherche le docteur de la loi, ce n'est pas bios. Le deuxième thème qu'on retrouve, c'est psouké. Et psouké fait allusion à la vie de l'âme, la vie psychologique et physique, la vie intérieure, les émotions, la pensée, la personnalité. Ce que vous êtes, hein, votre réflexion, vos conceptions et tout ça, c'est psouké. C'est la vie dans son existence, on est devenu des âmes vivantes, ça c'est psouké. Okay? Mais ici, encore une fois, le docteur de la loi ne cherche pas ça. Il y a un troisième terme qu'on trouve dans le Nouveau Testament pour la vie, c'est anastrophe, c'est le mode de vie, les mœurs, la façon de vivre, la conduite, les comportements, comme une personne agit, c'est cela. Mais évidemment, ici, encore une fois, ce n'est pas ce que cherche le docteur de la loi. Ce qu'il cherche, et le mot qui est utilisé, c'est le mot « zoé ». Et le mot « zoé », c'est la plénitude de la vie. Je vous ai mis quelques définitions sur les diapos, probablement vous ne pourrez pas les noter. Là. Qu'est-ce que la vie « zoé » en fait? Le docteur de la loi, on aurait à reprendre sa question de façon intégrale, ce serait « Seigneur, que dois-je faire pour avoir Zoé, la plénitude de la vie, la véritable vie, la vraie vie? » Ok? Qu'est-ce que Zoé? C'est l'état de celui qui possède de la vitalité, qui est animé, la plénitude absolue de la vie. En anglais, on dit « fullness of life », la plénitude de la vie, qui appartient à Dieu et à Christ et qui est accessible à la nature humaine. C'est la vie réelle et véritable, une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, bénie même dans ce monde pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira, après la résurrection, à de nouvelles accessions dans un corps parfait pour l'éternité. Ça, on parle de la vie éternelle aussi. On continue, vous êtes toujours avec moi? La vie, Zoé, c'est à la fois une possession actuelle et une espérance merveilleuse pour l'avenir. Par la foi, le croyant entre d'ores et déjà dans une relation vitale avec Dieu, reçoit une nouvelle naissance, une nouvelle puissance, exerce de nouvelles activités. Ça, c'est la vie Zoé. Je continue encore juste les définitions et après coup, je vais commenter. Il y a la vie éternelle, c'est une source d'énergie vitale. C'est la vie en tant que telle qui jaillit, provenant de Dieu et dont toute la création a tiré son origine et qui régénère, transforme, renouvelle nos vies. Vous allez davantage comprendre dans mes explications, vous allez voir. La vie éternelle, c'est pas simplement la vie après la vie. C'est aussi la vie dans la vie. La plupart du temps, dans nos milieux, parce que tout le monde, toutes nos églises sont axées évidemment beaucoup et énormément sur l'évangélisation, donc on pense toujours aux gens qu'il faut qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils aillent au ciel et non pas en enfer, c'est très, très, très bien comme ça. Mais on oublie que cette vie-là qu'on reçoit, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous projette dans l'avenir, dans le futur, en disant « mon nom est écrit dans le livre de vie », c'est aussi une vie que je reçois qui vient à moi, qui fait que cette vie-là, elle est à l'intérieur de moi. C'est la vie dans la vie, c'est sa vie dans ma vie. Regardez bien, la vie que Dieu m'offre, ce n'est pas un moins, mais c'est un plus. La vie que Dieu m'offre, ce n'est pas quelque chose que l'on m'enlève, mais quelque chose que l'on me donne. Ce n'est pas maintenant que je suis chrétien, je ne peux plus rien faire. Ce n'est pas une valeur réduite, mais une valeur ajoutée à ma vie. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de, mais qui me stimule à. C'est la force de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui me restreint, mais quelque chose qui me pousse, qui m'anime. Ce n'est pas une contrainte éprouvée, c'est une liberté renouvelée. Ce n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Ce n'est pas une vie sans souffrance, mais sûrement pas une vie sans joie. Ce n'est pas une vie sans conflit, mais sûrement pas une vie sans paix. Ce n'est pas une vie parfaite, mais c'est une vie pleine de possibilités. Ce n'est pas une vie que l'on subit, mais que l'on saisit. La vie Zoé, c'est la vie que Dieu m'offre. C'est la vie que Dieu veut pour moi, la vie dans son intensité, encore une fois, dans sa plénitude. C'est la vie de Dieu en moi. C'est sa vie dans ma vie. C'est la vie avec un grand V dans la vie avec un petit V. Est-ce que vous me suivez? Regardez-moi ici. En fait, lors de notre conversion, vous savez, lorsqu'on dit « Jésus a donné sa vie », il n'a pas juste donné sa vie, il a donné la vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie Zoé. Alors, dans la majorité des cas dans le Nouveau Testament, lorsque vous allez voir le mot « vie », ça va être « Zoé ». L'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est « Zoé ». La parole de vie, c'est « Zoé ». La source de vie, c'est « Zoé ». Voyez-vous, c'est complètement répétitif. Ça fait allusion à cette vie de Dieu que l'on reçoit. Alors, littéralement, lors de notre conversion, il y a une transaction. Qu'est-ce que Dieu me demande? Il veut que je lui donne ma vie. Mais qu'est-ce qu'il me donne en retour? Il me donne sa vie. Donc, il y a une triple transaction. Il a donné sa vie. Je lui donne la mienne et il me redonne la vie. Et cette vie qu'il me donne, ce n'est pas un concept, c'est quelque chose qui m'anime, qui change ma vie. C'est cette force, cette énergie vitale qui change ma vie. Et ça, c'est Zoé. Et donc, si on pose la question, c'est comment on peut tirer le meilleur parti de notre séjour sur Terre, c'est bien sûr en recevant la vie de Dieu, cette vie qui est là. Alors, la vie Zoé, c'est deux choses. C'est une espérance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, on est dans l'éternité. C'est bien, c'est bien. Et voilà pourquoi je dis que c'est une espérance. Et pourquoi je dis que c'est une espérance? Parce que je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas à la fin, en fin de vie, prêt à plonger dans l'éternité. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la vie Zoé, ce n'est pas seulement une espérance, c'est aussi une expérience. Je suis venu avec mes brebis et la vie, et l'est en abondance. Donc là, Jésus adresse la question de la vie ici sur terre, de mon séjour sur terre, de mon parcours sur terre, et c'est ça qui est important. Est-ce que vous me suivez ce soir? Il y a quelques années de cela, moi, je suis évidemment père de famille, j'ai quatre garçons, mes garçons sont tous adultes, mais le troisième de mes fils s'appelle William. Et William, c'est celui qui m'a fourni le plus d'anecdotes dans ma vie, à lui seul. Et un jour, j'étais en voiture avec lui, je faisais quelques courses, il devait avoir 7-8 ans. Puis il me dit, « Papa, j'ai quelque chose à t'annoncer », avec un ton un peu solennel. Alors moi, j'ai dit, « Mais William, qu'est-ce que tu as à m'annoncer? De quoi tu veux me parler? » Mais je veux te dire deux choses. Je veux te dire quelque chose. Dis-moi, quoi? Et je veux t'annoncer que maintenant, je ne serai plus chrétien. Comme ça, dans la voiture, là, William, là, tu me dis ça, là. Et je peux savoir pourquoi? Bon, il dit, « Papa, premièrement, je veux te dire que maintenant, il y a 8 ans, là, maintenant, je crois à la théorie de l'évolution. » OK. Je dis, écoute, William, tu m'expliqueras un peu ce que tu sais, la théorie de l'évolution, ça m'intéresse. Et l'autre raison, ben, c'est parce que, papa, lorsqu'on est chrétien, on n'a jamais le droit de rien faire. Et là, j'étais fâché, mais pas après lui, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a contaminé. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un moins, c'est un plus. La vie chrétienne, c'est que maintenant je suis chrétien, voici tout ce qui peut se passer dans ma vie. Je ne peux parler de la vie Zoé sans penser à ma propre expérience de vie lors de ma conversion il y a 49 ans. L'addition n'est pas pour chercher mon âge, ce n'est pas ça le but. Là. OK? J'avais 20 ans à l'époque. 20 ans, j'avais une vie chaotique, j'étais perdu, j'étais un enfant égaré, confus et tout ça. Et je rencontre Jésus, puis littéralement, c'est comme je suis ressuscité. C'est comme sa vie est rentrée en moi. Et je me souviens un jour, je suis à la maison, je suis chez ma mère. Ma mère était veuve. Et je suis à la maison et je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Puis elle me dit, qu'est-ce que t'as, là? Mais j'ai rien, maman. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai rien, maman. T'as pas les mêmes yeux. T'as pas la même tête. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, là? On était le matin, là. OK? Mais j'étais rempli de l'amour de Jésus. Ça rayonnait. C'est comme si ça irradiait autour de moi. OK? Ça, c'était le fait que j'avais reçu cette vie éternelle. Donc, la vie éternelle, là, c'est beaucoup plus que de dire, j'ai mon nom est écrit dans le livre de vie, je vais aller au ciel, j'ai l'assurance de mon salut, c'est bien, tout ça, c'est bien. Mais c'est aussi l'expérience de vivre pleinement cette vie sur terre. Et c'est ça l'élément central. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La question, elle était bonne. C'est nous qui la disons souvent différemment, en l'associant seulement à la vie après la vie, quand en fait Dieu s'intéresse à ma vie ici et maintenant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que je peux entendre un petit amen?
Amen.
La question, la rencontre, la requête, il y a maintenant la réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez déjà que le docteur de la loi connaissait la réponse. Il l'a dit. Donc, il a posé la question en sachant fort bien quelle était la réponse. Peut-être au niveau des motifs, il avait besoin d'être assuré face à sa réponse. En tout cas, Jésus la valide parce que Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Ce texte, évidemment, c'est tiré du livre de Deutéronome. La transcription dans le Nouveau Testament, mais c'est un texte tiré du Deutéronome, qui connaissait bien la loi. Mais cette loi-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en perspective deux choses. Elle met en perspective la notion de relation. Parce que le verbe aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, aimer, c'est un verbe relationnel. C'est beaucoup plus qu'un sentiment. Okay? Si je dis que j'aime ma femme, et que je lui témoigne jamais, que je ne passe pas du temps avec elle, que je ne communique pas avec elle, ben, c'est un sentiment qui ne sert strictement de rien, qui fait peut-être un peu de bien, mais qui ne change rien. L'amour, c'est relationnel. Voilà pourquoi, vous, plus jeunes, quand vous... je vais vous donner une expression québécoise qui dit « tomber en amour ». En fait, c'est « tomber amoureux », mais c'est « falling in love » qu'on traduit littéralement. Quand un jeune tombe en amour, là, il ne veut pas juste la regarder, il ne veut pas juste l'admirer, il veut plus que cela. Hein? Je ne suis même pas dans la sexualité, il veut juste « je vais passer avec elle, je vais être en relation avec elle ». Oui, ça, c'est l'univers de la relation. Or, c'est la même chose pour Dieu envers nous. Dieu est un être de relation qui veut être en relation avec nous. Et qui veut en retour qu'on soit en relation avec lui. Voilà pourquoi le texte insiste, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton prochain, excusez-moi, je le pense. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ton âme, en manque un. Ta force, ta pensée, la pensée, la force, l'âme et le cœur. Et voilà, les émotions, la raison et tout ça. Regardez bien. Ça, c'est de l'ordre de l'expérience dans notre condition spirituelle. Mais ce qu'on doit être capable de comprendre, c'est que dans ce texte de la loi, je fais un pas en arrière, vous voyez, j'aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée, ton âme, et ton prochain comme toi-même. J'ai mis les textes, là, les mots à souligner. Il y a les axes, les axes relationnels de la vie. C'est quoi? Je suis en relation avec Dieu, je suis en relation avec les autres, et je suis aussi en relation avec moi-même. Vous comprenez? Alors là, ça devient intéressant. À partir juste d'un texte de la loi, on découvre, wow, ce sont des grands enjeux de la vie. Okay? La relation avec Dieu, c'est nos grands enjeux de notre vie spirituelle. Okay? Mais aussi la relation avec les autres. Tu aimeras ton prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et remarquez qu'il n'y a pas trois commandements, il y en a deux. Hein? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que les véritables enjeux de la vie, de façon universelle, depuis que le monde est monde, c'est toujours attaché à cette dimension des axes relationnels de la vie. Je suis en relation avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Avec soi-même et avec les autres. Et c'est là que se joue, encore une fois, toute la vie entière. La loi met en évidence trois défis fondamentaux. La relation avec Dieu, les défis spirituels. La relation avec les autres, les défis relationnels, et la relation avec soi-même, les défis personnels. Regardez-moi ici encore une fois. Tout se joue à l'un ou l'autre de ces niveaux-là. C'est les grands défis, les grands enjeux. Ça met en évidence là. C'est-à-dire que vous et moi, on va le voir dans quelques instants aussi, on lutte avec tout cela, c'est-à-dire à bien maintenir notre vie spirituelle, à essayer de se retrouver dans des relations pas trop toxiques. Et on est aussi en relation avec nous-mêmes. OK? Regardez-moi. Est-ce que vous avez déjà réalisé que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? Bien sûr. Ah, ce qui est important, c'est d'être en relation avec soi-même aussi de façon harmonieuse. Et c'est là que se joue, encore une fois, je sais que je me répète, c'est là que se joue la vie en tant que telle. Or, la loi met en évidence, donc, ces trois défis fondamentaux. Donc, sur le plan personnel, vous et moi, on se retrouve à devoir s'investir dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation avec les autres et dans notre relation avec nous-mêmes. Et ce n'est pas gagné. Trop souvent, j'ai remarqué au fil de toutes ces années, on met beaucoup d'emphase sur la relation avec Dieu, comme si nous n'étions que des êtres spirituels. Mais la vie ne se joue pas simplement sur le plan vertical. Ça se joue aussi sur le plan horizontal. Nous sommes aussi en relation avec les autres. Okay? Et nous sommes aussi, comme je l'ai mentionné, en relation avec nous-mêmes. Donc, une personne qui s'épanouit dans la vie, c'est une personne qui réussit à trouver un équilibre dans chaque aspect de ces relations-là. Okay? Et d'une façon ou d'une autre, moi, je crois aussi, du très fond de mon cœur, que quelqu'un qui est en relation avec Dieu, tout cela va aussi se répandre et se manifester dans sa relation avec lui-même, dans sa relation avec les autres. Alors, c'est comme si je vous dirais, vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer les autres, ou vous ne pouvez pas aimer Dieu sans à quelque part vous aimer et vous accepter vous-même aussi, dans ce sens-là. Quand on regarde ce qui se passe dans ce monde, on s'aperçoit que même sur le plan mondial, il y a de grands enjeux à rattacher à ces trois axes-là. Il y a, vous serez d'accord avec moi, que l'humanité entière est aux prises avec des problèmes religieux. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Quand vous regardez le journal télévisé, là, quand vous regardez ce qui se passe dans ce monde, ça n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment. Les futurologues avaient prédit que le 21e siècle, ce serait un siècle où il n'y aurait plus de religion. Et c'est le contraire, il y a une concentration de conflits au niveau religion. Parfois, c'est culturel, c'est religieusement culturel ou culturel religieux. Mais il y a aussi des problèmes psychologiques. Okay? Quand on regarde l'état de notre monde à l'heure actuelle, les gens ont des soucis avec eux-mêmes. Êtes-vous d'accord avec moi? Je peux faire un petit test avec vous. Tu n'as pas le droit de répondre, toi. C'est parce qu'on avait discuté hier ensemble. Je fais un test avec vous. Okay? Est-ce que quelqu'un peut me dire... Je n'ai pas les chiffres réels pour le Luxembourg, mais pour l'Europe. Là. Quels sont les deux médicaments les plus prescrits en Europe?
Les antibiotiques?
Non, je parle des médicaments, ce qu'on appelle psychotropes. Là.
Les antidépresseurs.
Les antidépresseurs, OK. Et le deuxième? Non. L'anxiété. Donc, il y a les antidépresseurs et ce qu'on appelle les anxiolytiques. C'est les médicaments pour l'anxiété, l'angoisse et l'anxiété. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que notre monde, nos sociétés, à quelque part, malgré leur évolution, malgré une certaine stabilité, les gens sont aux prises avec des problèmes avec eux-mêmes. Okay? Ils sont déprimés, ils sont découragés, ils sont anxieux plus que jamais. Et, bon, évidemment, la pandémie a généré beaucoup, beaucoup d'anxiété, la COVID et tout ça. Mais on sait que même si c'est terminé maintenant, il y a c'est comme si les gens avaient été ébranlés. Il y a une anxiété qui est toujours présente, moins intense, parce que maintenant, le danger est passé. Mais les bruits de guerre et tout ce qui se passe sur le plan politique mondial, ça génère beaucoup d'anxiété. Et même chez les croyants. Parce qu'évidemment, on est des humains avant toute chose, avant d'être seulement des êtres spirituels, on est aussi des êtres humains qui éprouvent des choses dans la vie. Tous les parents éprouvent de l'angoisse quand ils pensent à leurs enfants. C'est ça la réalité de la vie. Et évidemment, l'humanité entière est aux prises avec des problèmes d'ordre sociaux. Et là, encore une fois, guerre, bruit de guerre, les conflits dans la famille, les mariages qui s'effondrent. Voyez-vous, c'est là que tout se joue. Alors, quand ces éléments-là ne sont pas en priorité, c'est-à-dire ma relation avec Dieu, ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, je me retrouve avec une vie qui est mal en point. OK? Avec une vie qui est mal en point. Alors, qu'est-ce qu'on fait en relation d'aide? C'est qu'on aide les gens à sauvegarder la qualité de leur relation avec Dieu, avec eux-mêmes et avec les autres. Quand les gens, je vais en parler davantage demain parce que je vais poursuivre un petit peu sur tous les problèmes rattachés à chacun de ces axes-là. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que il y a parfois des gens qui ont des problèmes sur le plan spirituel, évidemment, difficulté avec Dieu, ce qu'ils pensent de Dieu, comment ils se ressentent vis-à-vis de Dieu. Mais parfois, ils ont des problèmes simplement avec eux-mêmes. Ils ne sont pas bien dans leur peau, ils ont des complexes, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, ils manquent de confiance et tout ça. Et, vous savez, on n'est pas obligé d'aller au ciel ou d'arriver au ciel avec une pleine estime de soi-même et une bonne santé. Hein? Mais entre vous et moi, le parcours va être beaucoup plus agréable d'ici ce temps-là. Donc, on a tout intérêt à régler nos choses avec nous-mêmes. Et évidemment, dans nos relations aussi. Dans l'ensemble de la vie, le choix des gens avec qui nous allons évoluer, nous allons progresser, c'est fondamental. Moi, je crois, vous savez, je crois qu'il y a deux grandes décisions dans la vie. La première décision, elle a une portée éternelle. C'est est-ce que toute personne va se convertir ou accepter Jésus comme son sauveur personnel? Ça a une portée éternelle, notre destinée éternelle est rattachée à cette question. Mais le deuxième grand choix que nous devons faire dans la vie, c'est le choix de notre partenaire de vie. C'est le choix de notre mariage. Okay? On en parlait avec le pasteur hier autour de la table. Tellement de gens font des choix précipités, font des choix parce que, à quelque part, ils sont tellement en besoin qu'ils ne réfléchissent pas et qu'ils vont aller vers quelqu'un, croyant, pas croyant, peu importe la maturité de sa foi, et là, ils vont se retrouver souvent en difficulté. Et c'est long, longtemps. Ça, c'est une autre expression québécoise. C'est long quand tu es malheureux avec quelqu'un. OK? Je vous le dis, à chaque semaine, je reçois des mails de gens qui disent « Qu'est-ce que je fais? Je suis malheureux. Personne ne me comprend. Mon mari ne m'aime pas. Ma femme ne m'aime pas. » C'est tout ça les enjeux. Donc, c'est une immense priorité à savoir. Il faut mettre notre emphase sur la qualité de nos relations. Okay? Parce que c'est ça qui empoisonne notre vie plus que toute autre chose. Donc, dans cette réalité, ce qui est hyper important, c'est que de comprendre que ce texte de la loi, cette simple rencontre avec Jésus, de la part de ce docteur de la loi, met en perspective pour chacun de nous, pour vous comme pour moi, les grands enjeux de la vie, c'est-à-dire ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même et la relation avec les autres. Et c'est là l'élément essentiel, l'élément important. Maintenant, allons un peu plus loin. Un résultat. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La réponse: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. J'étais un peu étonné ce soir, parce que lorsque je vous ai un petit peu torturé là, avec la question que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, bon, je ne vous ai pas souffert trop quand même. Beaucoup, ce n'est pas arrivé ici, mais beaucoup vont un peu être interpellés par le verbe faire. Que dois-je faire? Et là, si vous êtes de bons évangéliques, vous n'en avez rien à faire. C'est le salut par la grâce, sans les œuvres et tout ça. Et souvent, il y a des débats. J'ai assisté parfois à des débats comme cela. Mais en fait, Jésus, lorsqu'il a confirmé que le docteur de la loi avait bien répondu, lui a dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Maintenant, s'il était question du salut, nous savons que nous n'avons rien à faire pour être sauvés, dans le sens que c'est Dieu qui a tout accompli, Jésus. Mais la réalité, c'est que pour avoir la vie dans sa plénitude, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons faire. Vous savez quel est le drame dans la vie que j'ai observé au fil des années? Beaucoup de gens attendent après Dieu sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Fais quelque chose. Fais cela et tu vivras. Okay? Quand Josué portait le deuil de Moïse au premier chapitre du livre de Josué, Dieu lui dit, lève-toi maintenant. OK? Donc, vous voyez, parfois, on lance tout entre les mains de Dieu. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Ouvre la porte. Ferme la porte. Aplanis le chemin. On donne l'ordre de mission à Dieu quand, en fait, c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit quoi faire. Fais ceci. Fais cela. Et ici, avec le docteur de la loi, ce qui est intéressant, c'est pas... La discussion entre Jésus et le docteur de la loi ne se termine pas avec « t'as bien répondu ». On n'était pas dans un quiz télévisé, là, qui veut gagner des millions ou quelque chose comme ça. Là. La réponse, c'est « t'as bien répondu, OK, mais fais cela et tu vivras. Et si tu ne le fais pas? » Et là, ce dont je veux vous interpeller ce soir, c'est sur les gestes et les actions que vous devez poser dans la vie, OK, dans votre relation avec Dieu. C'est beau dire « je viens à l'Église, j'aime le Seigneur », si vous ne faites jamais rien pour lui, avec lui, à la maison, dans un temps de prière, vous êtes un petit peu dans un rituel religieux. C'est pas mal, mieux va être ici qu'être ailleurs, mais ça ne suffit pas. Ou vous pouvez dire, même chose au niveau de l'investissement avec vos gens, vous pouvez dire à votre femme, votre mari, je l'aime, si vous ne vous investissez pas dans cette relation, vous n'aurez pas le mariage que Dieu veut que vous ayez. Là. Okay? Même chose au niveau des relations avec les enfants, même chose au niveau des amitiés, même chose au niveau des frères et des sœurs à l'Église, tout ça, c'est à quoi on doit s'investir dans la vie. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Et même chose pour soi-même. Il faut faire des apprentissages, il faut grandir, il faut être en croissance, il faut se développer, il faut développer nos dons, nos talents, nos qualités. Pourquoi? Parce que c'est là que va se jouer notre vie. Vous savez, les dons et les talents, ce sont des outils que Dieu nous a donnés pour bien construire notre vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme des pays sous-développés. Okay? Ils sont pauvres au-dessus, mais il y a tellement de richesses en dessous. Alors, il y a des gens qui sont bien au-dessus, mais il y a tellement de richesses à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils ne savent pas. Donc, ils ne vont pas puiser cela. Il est difficile pour eux de s'en sortir et de bâtir une vie saine et digne de ce nom si tu n'utilises pas les outils que Dieu t'a donnés. Et tout ça, c'est à l'intérieur. Et le défi pour l'Église, c'est souvent d'éveiller cela dans le cœur des gens. Maintenant que tu t'es converti, tu as un long parcours devant toi, tu as une vie devant toi. OK? Il faut que tu fasses quelque chose. Êtes-vous avec moi ce soir? J'ai quelque chose qui vient d'être téléchargé dans mon cerveau. Je vais juste aller vers quelque chose. Vous connaissez ce texte dans le Nouveau Testament qui dit « Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Et la contrepartie, c'est « étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. » D'accord avec moi? Donc là, on se retrouve devant le choix. C'est comme s'il y a deux voies devant nous. Il y a une voie facile, une voie de facilité, encore une fois, qui est intéressante, qui est séduisante et qui nous amène à la facilité à souvent se perdre dans notre vie. Mais ce n'est pas sur cet aspect-là que je vais insister ce soir, c'est sur l'autre. Êtes-vous toujours avec moi? Je vais poser encore une question. Lorsque le Seigneur dit « étroite est la porte », c'est quoi la porte? Ça symbolise quoi, la porte? Et là, je sais. Vous allez me répondre, Jésus. Je sais que Jésus est la porte. Mais là, je ne suis pas là. Okay? Je suis dans la question. Que symbolise la question de la porte? Lorsque Jésus dit, large est la porte. C'est quoi cette porte? C'est quoi une porte, premièrement? Ça symbolise quoi, une porte? Un passage. OK. Donc, mettons qu'il y a une porte ici. Là, je suis de ce côté-ci. Je traverse la porte, je suis de l'autre côté. Donc, c'est une voie de passage, OK? Dans l'expérience chrétienne, que symbolise la porte? C'est une représentation de quoi? Dans l'expérience chrétienne, ça symbolise quoi? Là, j'étais là, et là, je suis là. Oui. Allez. On est trop loin, là. La porte, ça ne sépare quoi? Hein? La porte.
Le royaume?
Ben, en fait, c'est, vous êtes, oui, oui, oui. Le royaume est ici, là. Là, je suis. C'est quoi la porte, ça symbolise quoi? Oui, vous avez raison. La conversion. OK? Je n'étais pas chrétien. Je me suis converti. Je suis chrétien. Non, j'ai passé la porte. Et le passage, évidemment, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la porte. Mais la porte symbolise la conversion. Ça symbolise la nouvelle naissance. Ça symbolise l'expérience originelle de la foi. C'est cela, la porte. OK? Non, je rigole. Je rigole. OK. Non, c'est... OK. On y va pour une deuxième question. C'est quoi le chemin? Et là, ne me dites pas, c'est Jésus le chemin. Je sais, Jésus est le chemin. OK. Ça représente quoi, le chemin? Si la porte représente la conversion, le chemin représente quoi? Hein? Oui. Puis dans l'expérience chrétienne, ça fait allusion à quoi? Non. Regardez-moi ici, au peuple. On fait quoi sur un chemin? OK. Bon, la marche chrétienne, un autre symbole que la marche chrétienne. Je marche dans une nouvelle vie, effectivement.
L'évangélisation.
Non. Ça, c'est le frère spirituel. Il fallait que... Le style de vie, c'est la croissance spirituelle. Okay? Je passe la porte, là, je suis un petit enfant dans la foi, mais je vais grandir. Je progresse dans ma vie chrétienne. Vous savez quel est le problème avec beaucoup de gens? C'est qu'ils ont passé la porte, OK? Et ils sont assis sur le bas de la porte. Ils restent dans la porte. Okay? Ils ont connu le Seigneur. Ils ont une expérience de vie, dans le sens de la conversion. Là, on est écrit dans le livre de vie, oui. Mais ils passent à côté de la vie. Étroite est la porte. On a eu de la difficulté à la trouver, cette porte. Moi, j'ai eu de la difficulté à la trouver. Je ne savais même pas qu'elle existait. Mais lorsqu'elle m'a été proposée, lorsque j'ai découvert, j'ai décidé de passer la porte. Je me suis converti, j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur. Et après coup, c'est terminé? Non. Tout est à apprendre maintenant. Okay? C'est un peu comme pour vous, mesdames, l'accouchement. Ça y est, mon travail est terminé, je viens d'accoucher. Non. Ça m'a commencé. Ça a duré juste 9 mois. Là, tu en as au moins pour 90 ans devant toi. Okay? La réalité, c'est que tout est à faire. Et c'est la même chose au niveau de la marge de la foi. Les gens doivent progresser, grandir et devenir. Et le chemin mène où? À la vie. Zoé. Alors, beaucoup de croyants n'expérimentent pas pleinement la vie, cette expansion de la vie, c'est plus que de l'explosion, cette manifestation de la vie, parce qu'ils restent dans des... C'est un peu comme si je vous dirais, un enfant qui est au monde, qui vient au monde, est-ce qu'il vit pleinement la vie? Un, il est à peu près pas conscient. Et bon, plus il va grandir, plus il va découvrir des choses, il va s'amuser. Mais la pleine réalisation de soi, la pleine réalisation du plan de Dieu, c'est dans la croissance qu'on le découvre. Et que notre vie trouve son plein épanouissement. À la fois spirituellement, mais aussi dans notre parcours sur Terre. Est-ce que vous me suivez dans tout ça? Alors, lorsque le docteur de la loi, j'aimerais tellement vous convaincre ce soir. Je reviens à mon chemin, et les deux chemins. Beaucoup de gens dans ce monde s'égarent. Ils se perdent. Il y a des croyants qui ont passé la porte un jour et qui se détournent du chemin. Il y a d'autres personnes dans ce monde qui n'ont jamais trouvé la porte, qui n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'il y a une porte, ils ne croient pas que Jésus peut sauver les... OK? Ils se perdent. Et la fonction de l'Église, c'est littéralement de démontrer à l'humanité entière, à ce monde dans lequel nous vivons, que Dieu existe et que Jésus est la porte vers la vie Zoé, la vie pleine et entière. Est-ce que vous me suivez? Et quand je reçois cette vie-là, cette